16 janvier 1982, session du Père Marie-Dominique Philippe à Curière, métaphysique. Première conférence.
Alors nous allons continuer de faire de la métaphysique en reprenant ce qu'il faut toujours reprendre. J'espère que ce ne sera pas trop fatigant, cette matinée de métaphysique. Il y a du beau soleil, alors ça va. Alors, je reprends pour que vous saisissiez mieux ce point de départ. On voit toujours que, de fait, la philosophie, si on la regarde, dans le berceau chez les philosophes grecs jusqu'à nos jours, on voit que de fait la philosophie va toujours osciller en quelque sorte vers ces deux points de départ, ou le point de vue de l'inspiration ou le point de vue de l'expérience. Je crois que c'est important à toujours comprendre qu'il y aura perpétuellement, je ne dis pas qu'il y a deux sources, hein, je dis qu'elle oscille perpétuellement entre les deux. Je dirais que pour l'homme, il y a de fait, si on est un peu artiste, et on l'est tous, il y a pour l'homme toujours un peu ces deux aspects. L'expérience qui nous met dans le contact direct avec le milieu dans lequel nous vivons, avec les hommes avec qui nous vivons. Et cette expérience va impliquer radicalement le jugement d'existence, qui est comme une trans-expérience, parce que le jugement d'existence n'est pas une expérience au sens absolu. J'expérimente, parce qu'on expérimente l'autre. On expérimente la matière, le mur sur lequel on se casse la tête. On expérimente une autre voiture qui vient vous défoncer. On expérimente la personne qu'on rencontre sur la route et qui vous barre la route. Ou bien qui vous accompagne, ça dépend. Qui regarde dans votre sens ou qui regarde dans un autre sens. Le jugement d'existence nous fait toucher quelque chose de radical dans l'autre. Mais ce n'est pas quelque chose que nous touchons en premier lieu. On le touche en premier lieu, oui, c'est très vrai. Mais selon notre psychologie, selon notre conscience, nous expérimentons d'abord l'autre, puis nous pouvons préciser que cet autre, il existe. Comme moi-même, j'existe. Là, il y a un passage, je vous le disais la dernière fois, j'insiste parce que je crois que c'est très important de bien le situer. Il y a un passage très important entre l'expérience simple, habituelle, et je prends là l'expérience au sens fort, l'alliance de l'intelligence et des sens externes. Je touche cette table, je suis en présence de tel ou tel, je suis en présence de telle ou telle réalité. Et puis, ce qui est fondamental à cette expérience, ce jugement d'existence, c'est pour ça que je dis trans-expérience, ou méta-expérience, si vous voulez, ce qui est au-dessous, fondamental, par rapport à cette expérience, c'est le jugement d'existence. Et puis, il y a cette autre source de connaissance que nous portons en nous, qui est l'inspiration. L'inspiration, c'est ce qui est à la racine de toutes nos idées. L'inspiration ne nous conduit pas directement à l'expérience, mais l'inspiration nous permet de découvrir ce qui est possible. Les idées. Les idées, c'est le domaine du possible. C'est du domaine de ce que nous avons découvert nous-mêmes. C'est notre enfant. Et donc, c'est le plus beau de tous les enfants. Et puis, il a l'avantage de provenir de nous dans une espèce d'intuition. L'inspiration conduit à l'intuition. Toute philosophie de l'intuition est toujours un peu une philosophie de l'inspiration. Alors, si la réalité était une réalité artistique, le point de départ de toute la philosophie serait l'inspiration. Mais puisque la réalité existe avant nous, et qu'elle a existé avant nous, et que notre voisin n'est pas notre œuvre d'art, ou notre voisine, elle ne serait pas comme ça si elle était notre œuvre d'art. C'est bien évident. Si elle était conçue selon notre intention profonde et notre inspiration, nous ne l'aurions jamais faite comme ça. Ça, c'est sûr, c'est évident. Puisque notre voisin, notre voisine, puisque le monde dans lequel nous sommes existe avant nous et que nous ne l'avons pas fait, nous pouvons simplement le modifier un tout petit peu, corriger un peu certains de ses défauts, corriger du moins ce que nous considérons comme être ses défauts, mettre un peu plus d'huile pour que ça glisse mieux. Enfin, voilà ce que nous pouvons faire. Mais nous sommes bien obligés de reconnaître que ces réalités, mais elles existent indépendamment de nous. Dès que nous réfléchissons un tout petit peu. Donc nous voyons bien que nos idées viennent s'ajouter. Mais que nos idées ne touchent jamais ce qui est de radical en nous. Et autour de nous, et à l'égard du monde qui est tout proche de nous. Parce que c'est la même constatation qu'on peut faire en soi. Je me suis modifié un tout petit peu durant toutes mes années de vie religieuse. J'ai acquis des mœurs religieuses, c'est déjà quelque chose. Mais le fond de moi-même, comme nous le dirons tout à l'heure, notre substance, le fond de moi-même, mais je ne l'ai pas modifié. Il est toujours là, il m'accompagne tout le temps. Et puis dans ce fond, il y a de la boue, il y a le vieil homme. Et le vieil homme, j'ai jamais fini de voir jusqu'où ça allait. C'est tellement radical. Alors je m'aperçois qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas changé par moi. Et si je suis un être spirituel, je dirais que ce fond substantiel, seul l'Esprit Saint l'atteint. Parce qu'il est l'artiste des artistes. Alors lui atteint substantiellement mon être. Tandis que moi, je l'atteins de l'extérieur. C'est déjà beaucoup, c'est déjà quelque chose d'acquérir un tout petit peu des mœurs religieuses. Ça arrondit les coins pour le voisin. Mais au fond, c'est pas ce qu'il y a de fondamental. Et c'est très important de comprendre ces deux points de départ. Et de fait, je crois que toute l'histoire de la philosophie pourrait se comprendre de cette manière. Vous voyez, je fais un petit schéma pour que vous compreniez mieux, parce que c'est quand même très très important. Le point de départ, l'inspiration. Et c'est très important d'avoir un peu d'inspiration, mais ça peut être aussi extrêmement gênant. Se donne dans l'intuition qui implique toujours un peu une révélation. Si je parle de l'inspiration humaine, le petit artiste qui est en nous, et puis l'expérience et la trans-expérience. Ben, je suis obligé de mettre un mot particulier parce que cette trans-expérience est tellement enfouie, personne n'en parle. Alors, j'existe. Ceci est. C'est le jugement d'existence. Je pourrais faire, voyez, autrement dit, dans l'expérience, il y a deux zones différentes. Il y a la diversité des expériences et il y a l'unité. l'unité fondamentale est la diversité. La diversité se prend des diverses réalités que je touche. Je touche une table. C'est pas l'existence, la table. Mais à travers cette table, je dis, elle existe. Je caresse une vache. Mais la vache, c'est pas l'existence. Ou le petit chat, si vous aimez mieux. Alors, je caresse le petit chat, ce n'est pas l'existence, le petit chat. Mais ce petit chat existe. Alors je peux, au-delà de toutes ces déterminations particulières de mes diverses expériences, toucher ce qu'il y a d'unification, ce qui unifie toutes ces expériences, fondamentalement, c'est le jugement d'existence. Et puis, il y a ce domaine de l'inspiration, ces inspirations qui impliquent l'intuition, conduisent aux idées. Et le point de départ des mathématiques, hein, c'est assez du côté de l'inspiration. Le point de départ des mathématiques, c'est assez. Ça. J'ai des idées. Le mathématicien a des idées. Il est rempli d'idées. Il est rempli d'idées, le mathématicien. Il en a à revendre. C'est sûr que c'est un grand. C'est un grand. Mais ça se communique, les idées. Alors on a les idées. Les idées qui sont nos idées. Ou qui sont les opinions des autres. Parce que les opinions des autres, c'est encore des idées. Alors, si je n'ai pas d'inspiration, je peux me brancher, vous savez, courant électrique, je me branche. Et je prends toutes les autres inspirations des autres. Et je reçois toutes les opinions des autres. Encore, vous voyez, c'est les idées au sens inverse. À la place d'être une transidée, c'est au contraire la communication des idées. Ça, c'est le domaine d'aujourd'hui, la théologie de la communication. C'est le domaine des idées. C'est pas moi qui ai inventé les idées, je l'ai reçu. Je ne sais même plus d'où ça vient. C'est ce qu'on dit habituellement. Je ne sais même plus d'où ça vient. Est-ce que c'est vous? Non. Alors, c'est même pas branché sur l'inspiration. C'est uniquement branché sur un autre. Un autre, c'est « on ». C'est même pas l'autorité, hein. C'est « on ». C'est le « on ». Le on odieux, comme dit Heidegger, hein? Le on odieux qui n'a rien à voir avec la philosophie. C'est le monde. C'est toutes les relations mondaines, dans le sens philosophique, mondaines. C'est-à-dire qui viennent des autres, mais qui m'encombrent. Et qui me revêtent du manteau du philosophe. C'est le on. Je parle le langage philosophique, je parle le langage théologique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien. Le manteau du philosophe. C'est qu'Aristote a plus des sophistes. C'est le on. Alors j'ai le manteau du philosophe. C'est vrai, il y a des quantités de philosophes qui sont comme ça. Puis vous enlevez le manteau, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas d'inspiration. L'inspiration, l'artiste, le mathématicien, il vit dans les idées. Mais ce sont ses idées, ça vient de son inspiration. Alors, l'inspiration, elle s'enracine dans l'imaginaire. Dans l'imagination. Au grand sens, hein, l'imagination. Ça, l'imagination est source d'idées nouvelles. On va inventer des idées nouvelles. On va inventer des relations. Ces idées sont souvent des relations. C'est ce qu'elle veut. Ce sont des idées, des relations. Et alors, le tissu de relations secondaires, parce qu'ici c'est premier, ici c'est second. Mais second, de plus en plus vers l'extériorité. Et là, on vit dans ce domaine d'inspiration. Et alors, l'expérience me permet de toucher l'autre. Et là, je suis dans mon domaine. C'est la philosophie du même. Ici, c'est l'autre. Je crois que pratiquement ça se ramène toujours à ça. La philosophie du même, la philosophie de l'autre. La philosophie du même où je suis un artiste, où je suis un colporteur. C'est ça. Ou un colporteur au très grand sens. Hein. Je catalyse, il y a des gens comme ça qui catalysent toutes les idées des autres. Et puis ils en font une bibliothèque. Alors qu'ils ont catalysé tout ça, les opinions
de toutes les autres. On pense comme ça aujourd'hui. C'est comme ça qu'on pense. C'est assez loin. Et alors ici, il y a les deux. Vous voyez, c'est très curieux que les deux aspects, l'expérience habituelle, la détermination, je touche l'autre, la table, le champ, n'importe quoi, l'autre, et radicalement, je touche l'autre dans son être. Et l'être a cet immense avantage, c'est qu'il est à la fois l'autre et le même. Et donc, par le point de vue de l'être, je vais rejoindre le même. Tandis que par l'autre, la vache, je ne me rejoins jamais. Par la table, je ne me rejoins jamais. La table, cette table existe. C'est pas moi. Tandis que quand j'ai dit cette table, elle existe. Moi aussi, j'existe. Et donc, du côté du jugement d'existence, l'autre me ramène à moi. C'est ça qui est très curieux. Et donc, il y a quelque chose de fondamental qui me permet, à partir de l'autre, de rejoindre le même. Et je le rejoins par l'autre. Et c'est pour ça que je peux comprendre comment, de fait, il y a ces deux sources constantes au point de vue philosophique, au point de vue de la pensée humaine, tout le temps, l'inspiration, l'expérience. Mais il y a un ordre entre les deux. Alors, déjà, il faut bien comprendre. Il y a un ordre entre les deux. Si l'univers était un monde artiste, était une œuvre artistique, l'inspiration serait le point de départ de la philosophie. Mais comme l'univers existe indépendamment de mon activité, l'inspiration ne peut pas être le point de départ de la philosophie. Elle est le point de départ d'une connaissance artistique. Ça, il faut le reconnaître. L'artiste est le point de départ des connaissances mathématiques. Par l'expérience qui est le vrai point de départ des connaissances mathématiques. C'est l'inspiration, c'est les idées. C'est le domaine artistique et le domaine mathématique. Et alors, le point de vue de l'expérience, mais comme la réalité est autre que moi et qu'elle existe avant moi, je ne peux pas partir de l'expérience, je dois partir de l'inspiration. Mais je ne nie pas l'inspiration. Je la reconnais, je dis que c'est très important. Et je dis attention, si vous confondez les deux et que vous prétendez que l'inspiration va être pour vous la seule source de connaissance, eh bien vous ne découvrirez jamais l'autre. Je ne dis pas que... Vous voyez, le mathématicien, qui n'est que mathématicien, dont l'homme a été mordu par le mathématicien et d'une manière telle que l'homme est perdu dans le mathématicien, il ne rencontre jamais l'autre. Il vit dans ses idées. Extraordinaire. Les grands matheux sont comme ça. Ils vivent dans leurs idées. Et les grands poètes, qui sont des poètes, ils vivent dans les idées. Claudel avait l'avantage qu'il était naïf en plus de ça, comme homme, tout en étant poète. Alors, on lui demandait, est-ce que vous avez subi l'influence de quelqu'un ? De personne. J'ai entendu ça, c'était à Fribourg, dans une, où il y avait le père Journet, parce que le père Journet aimait beaucoup Claudel, là, et Claudel aimait beaucoup le père Journet, alors comme ça, il venait de temps en temps, c'était amusant, c'était intéressant d'entendre ce petit dialogue entre Journet et Claudel, évidemment c'était Claudel qui parlait, et Journet se plaisait, mais c'était quand même un dialogue. C'est comme Marc, on demandait, quand on demandait à Marc, Marc, est-ce que c'est vrai que vous avez dit telle chose à telle personne qui me l'a répété ? Et Marc dit, oh, mais vous la connaissez, vous savez bien, quand elle vient ici, il y a qu'elle qui parle, et tout ce qu'elle dit, c'est moi. C'est l'artiste qui... Alors c'est ça, on dira il fabule. Non, c'est un artiste. Il fabule pas. Il fabule au moment où il croit que c'est l'autre. Alors il projette. Mais en réalité, c'est l'artiste. L'artiste, c'est son domaine. C'est lui. C'est lui. Tout vient de lui. Oui. Alors c'est très important de dire ça, parce que nous avons en nous, n'est-ce pas, il ne faut pas l'oublier. Et c'est en ce sens-là que je dis que le philosophe sauve l'homme. dans un monde poétique, mathématique, dans un monde où si facilement on fabule, parce que si l'imaginaire qui prend tout, alors la philosophie vient sauver l'homme. Alors évidemment, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui vient sauver l'homme, c'est sûr, c'est le Saint-Esprit. Mais la philosophie vient coopérer à ce salut de l'homme, redécouvrir l'homme enfoui dans le point de vue de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, c'est notre cocon. Alors, l'imaginaire fait que nous sommes pris dans un cocon tel qu'on n'arrive plus à saisir l'autre. Et alors, la philosophie, très humblement, ça met du temps, hein. Ça met du temps, parce qu'à ce moment-là, je ne peux plus prendre de bulldozer. Je dois redécouvrir cette trans-expérience du jugement d'existence, où je touche l'autre, où je découvre l'autre. Vous voyez ? Alors, découvrir l'autre, c'est justement découvrir l'homme. C'est découvrir la réalité qui n'est pas faite par l'homme. La réalité qui est antérieure à l'homme. Que les anciens appelaient la nature. Parce que quand les anciens appelaient la nature, ils disaient l'art présuppose la nature et l'art vient après la nature. Ils disaient ça tout bonnement. Et en fait, c'est ça que ça voulait dire. Le domaine de l'art, la nature, c'est le domaine qui est fondamental et premier. C'est ce qui en moi est premier. Oui. L'Esprit Saint ne travaille jamais sur l'artificiel. L'Esprit Saint ne travaille jamais sur ce qui en nous provient de nous. C'est-à-dire qui est le domaine de nos idées. L'Esprit Saint ne travaille pas sur nos idées. Parce que ce n'est pas le roc. Les idées, c'est le sable mouvant. L'Esprit Saint ne travaille jamais sur nos idées. Tandis que le on du monde travaille sur nos idées. Le démon n'agit que sur notre imaginaire, sur le on du monde. Tandis que l'Esprit Saint, lui, travaille sur notre être. Il édifie toujours sur notre être. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de se dire ces deux sources en quelque sorte. On peut dire ces deux aspects que nous portons en nous. Il ne faut pas dire « Ah, moi je suis un réaliste, donc je supprime l'inspiration. » Pas du tout. Ce serait encore un manque de réalisme. Le vrai réalisme consiste à reconnaître qu'il y a en chacun d'entre nous un petit poète qui s'ignore et qui, parce qu'il s'ignore, de temps en temps, il a besoin de faire beaucoup de bruit. Surtout parce que les autres, lui, c'est un fantapageur. Pendant une demi-heure, il était tranquille, personne ne s'est occupé de lui, puis tout d'un coup, il se réveille, et puis il faut qu'on s'occupe de lui. Alors il tape dessus, tant pis, c'est n'importe quoi, il tape pour faire du bruit. Vous voyez, pourquoi on s'occupe de lui? Ça, c'est le point de vue du petit poète qui, en nous, a besoin de dire qu'il existe. Quand il fait des grandes œuvres, il n'a pas besoin de dire qu'il existe parce que ses œuvres existent. Et quand il n'en fait pas, il a besoin de dire qu'il existe. Alors, il tape. Ce n'est pas uniquement pour rappeler qu'il existe. Ça, il y a ça en nous. C'est bien évident qu'il y a ça en nous. Et puis, il y a en nous cette capacité beaucoup plus profonde de l'esprit de rejoindre l'autre et de nous rejoindre. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que je crois que c'est toujours très important de comprendre ces deux aspects-là. Et la philosophie consiste à partir de l'expérience pour découvrir l'homme au-delà de l'artificiel. C'est en ce sens-là que la philosophie peut coopérer à l'Esprit Saint. Parce qu'il redonne un terrain saint. Vous voyez ce que faisaient les moines dans le temps pour faire que le terrain ne soit plus soumis aux fièvres paludiennes. Il ne faut pas l'oublier. Et alors, c'est ça, les dons, quand on voit ça, c'est admirable. Avant, il n'y avait qu'un terrain qui était impossible à vivre, et bien on établit là la vie monastique pour faire que ce terrain redevienne un terrain saint. On retrouve l'expérience. Mais on ne soit pas dans l'imaginaire. Parce que quand dans l'imaginaire, vous êtes avec toutes les bêtes qui vous piquent, les insectes qui vous piquent, qui vous donnent de la poussière, et vous ne savez pas distinguer. Vous ne pouvez pas distinguer. Tandis que là, vous pouvez distinguer, vous touchez quelque chose de fondamental, vous touchez le roc. Bon. Je vous les redis, je reprends d'une autre manière ici, parce qu'il faut toujours saisir ces choses-là de multiples façons. Alors, je fais une petite remarque. Vous comprenez ceci, hein? Le cours de métaphysique, le laboratoire de métaphysique, parce que c'est un laboratoire de métaphysique, doit nous aider, chacun d'entre nous, hein, à cette espèce de conversion active. C'est la différence que celle que fait le Saint-Esprit. Je vous ai déjà donné ce petit exemple de cet étudiant que j'ai bien connu, où il me disait « L'Esprit Saint et le Christ a converti mon cœur, mais il me laisse le soin de convertir mon intelligence. » Et je crois que ça, c'est très très vrai. L'Esprit Saint a converti notre cœur, puisque nous sommes ici. Alors on peut dire que l'Esprit Saint a converti notre cœur. On ne serait pas ici. Il a converti notre cœur. Et il laisse à chacun d'entre nous le soin de convertir notre intelligence. Convertir notre intelligence, c'est redécouvrir le réel. Autrement, si vous restez dans l'imaginaire, tôt ou tard, l'imaginaire sera un obstacle à la conversion de votre cœur. Quelquefois très vite, alors on voit très bien, mais quelquefois lentement. On n'a pas vu assez. Perzim et comment. Mais c'est très vrai que l'Esprit Saint nous laisse le soin de convertir notre intelligence. Et avec notre intelligence, c'est tout le domaine de la connaissance. L'Esprit Saint nous laisse le soin de convertir notre intelligence, c'est-à-dire de revenir à la source de notre intelligence. Et le cours de métaphysique pour ceux qui se donnent à la vie monastique, c'est aider cette conversion d'intelligence. C'est pas facultatif. Vous voyez bien, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art. Ce serait très intéressant, même pour la vie monastique. Ce serait très intéressant, parce que c'est quand même important, c'est partie de la culture. La métaphysique ne fait pas partie de la culture, comme dit Aristote. Aristote distingue ce qui est de l'ordre de la culture et de ce qui est de l'ordre naturel. Et la culture, c'est encore le milieu dans lequel on vit. Il y a des milieux extrêmement intelligents. Ils connaissent tout. Ils ont tout. Alors, c'est quand même des opinions qu'on brasse. Merveilleusement, avec beaucoup d'intelligence, comme degré dans la culture, hein. Le patrimoine, comme on dit aujourd'hui. Il faut sauver le patrimoine aujourd'hui. C'est à sauver à tout prix. Alors c'est tout le domaine de la culture. La métaphysique ne fait pas partie de la culture. La métaphysique, c'est redécouvrir notre nature. Et donc c'est un peu la paille de fer. Que le cours soit quelquefois un peu la paille de fer, c'est vrai. Il faut redécouvrir en nous ce qui est foncier. Que nous pouvons redécouvrir avec le secours du Saint-Esprit, nous qui sommes consacrés à Dieu et consacrés au Christ. Et nous demandons constamment au Saint-Esprit de nous aider à être dans cet état natif. Dieu a voulu qu'il y ait en nous l'intelligence qui soit capable de se convertir elle-même. C'est du reste très beau, ça. Dieu a voulu mettre en nous l'esprit, notre intelligence, l'esprit, pour que notre esprit soit capable de se convertir lui-même et de redécouvrir ce qu'il y a de fondamental. C'est pour ça que cette opération, on la refait tout le temps. Il ne faut pas dire, j'ai fait une fois, ah c'est connu, c'est du fait. Mais non, quoi. On se convertit tous les jours au point de vue du cœur. N'allez pas dire au Saint-Esprit, j'ai plus besoin maintenant de prier, je me suis converti. Donc, on s'est converti pour avancer davantage dans l'amour. On se convertit du côté de l'intelligence pour que notre intelligence, dans la mesure où nous pouvons, se convertisse de plus en plus. Au fond, la philosophie et la métaphysique surtout, c'est une conversion de l'intelligence. C'est comme ça qu'on devrait l'intituler aujourd'hui. C'est une conversion de l'intelligence, parce que notre intelligence est tellement prise par le point de vue de l'imaginaire, elle est tellement prise par un monde sophistiqué, que nous n'arrivons plus à respirer la pollution de l'air. Et la pollution du milieu de la culture dans laquelle on se trouve, qui fait qu'on n'arrive plus à avoir de l'air pur. Alors, la métaphysique doit nous redonner de l'air pur. Parce que dès que vous touchez l'être, Vous touchez de l'air pur. Votre oxygène intellectuel, c'est de toucher l'être par le jugement d'existence. Alors voyez, c'est intéressant à noter ça, parce que ça nous fait comprendre qu'il y a deux manières de suivre un cours de métaphysique. La manière dont, hélas, la plupart du temps, on le fait dans les universités. J'essaie de ne pas le faire comme ça, mais je sens très bien le climat. Il ne faut pas croire que parce qu'on... On essaie de faire de la métaphysique, on devient insensible au milieu. Hein. Le métaphysicien reste toujours un peu un poète, et donc il est sensible au milieu. Et c'est forcé. Bien, dans le milieu universitaire, dans le milieu habituellement, on fait un cours de philosophie, on sait très bien que pratiquement, ce n'est pas du tout, la philosophie n'est plus du tout considérée comme ce qui doit être pour nous quelque chose de fondamentalement vital. Alors, on cérébralise encore la métaphysique. Et cérébraliser la métaphysique, c'est tout simplement dire, ah oui, parmi mes idées, ah, il y a l'idée d'être. Ah oui, je n'ai pas découvert, oui, c'est l'idée d'être. Ah, c'est très intéressant, cette idée d'être. Cette idée d'être, elle est fondamentale. Oui, c'est vrai, elle est à la racine de tout. Elle est une transidée. C'est ce que dit Kant, hein. Kant reconnaît qu'il y a l'idée d'être. C'est la transidée. C'est l'idée par excellence, c'est l'idée qui enveloppe tout. Et vous comprenez, à ce moment-là, la philosophie n'est plus du tout une conversion d'intelligence, c'est tout simplement, je la situe à l'intérieur du milieu dans lequel on vit. Alors on a l'idée d'être, on a l'idée de bien, on a l'idée de vrai, on a l'idée d'un... on a les transcendentaux, qui sont ces idées premières, suprêmes, grâce auxquelles je pourrais être un sophiste de premier ordre. Parce que je pourrais tout manier avec ces idées. Alors à ce moment-là, la métaphysique est digérée d'une manière cérébrale. Parce qu'alors, à la place de me mettre en contact avec l'autre, elle continue de montrer le côté infini de ma culture. Il y a quelque chose d'infini. Le cocon peut grossir d'une manière telle qu'il enveloppe tout. Et que je ramène tout dedans. Alors, j'ai l'idée d'être. C'est ce qui s'est passé historiquement. C'est ça qui est très beau. Ce qui est très beau, ce qui est terrible. Enfin, historiquement, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, à partir du 14e siècle, donc c'est vieux, à partir du 14e siècle, la métaphysique, tout simplement, a été reprise par le point de vue des idées. On a l'idée d'être. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est capital de comprendre ça. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous faites de la métaphysique en disant, ah oui, oui, le jugement d'existence me donne l'idée d'être, c'est très très bien. Au fond, c'est l'idée d'être. Alors, vous ne faites pas du tout l'effort de l'intelligence de retrouver la réalité. Mais vous pensez à l'idée d'être. Vous pensez à l'idée de... Vous pensez, je crois que même on ne pense plus. Enfin, vous imaginez l'idée d'être. Vous imaginez l'idée de vrai. Vous imaginez l'idée d'un. Vous imaginez l'idée de beau. Parce qu'on peut très bien imaginer la beauté. Je ne veux me marier qu'avec Miss Idéal. Vous imaginez Miss Idéal. Elle n'existe pas. Donc vous l'imaginez. L'idée d'être, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais rencontré l'être. Le jour où vous rencontrez Dieu, vous rencontrerez plus que l'être. Or, l'idée d'être, quand vous voyez la vache, vous voyez la vache. Vous ne voyez pas l'idée d'être. Pauvre vache, réduite à l'idée d'être. Quand vous voyez la table, vous ne rencontrez pas l'idée d'être. Vous rencontrez une table. L'idée d'être, elle n'existe dans votre intelligence et elle n'existe. Quand vous faites de l'idée d'être ce qu'il y a de premier, vous imaginez l'idée d'être. Ça a été pris par le cocon de l'imagination. L'imagination peut même falsifier toute la métaphysique en ramenant le jugement d'existence à l'idée d'être. C'est terrible ça, c'est le pire, c'est le sophisme le pire, hein, de voir que tout se ramène à l'idée d'être, alors que pas du tout. Tout se ramène à l'autre qui existe,
à ce six-pieds. Et ce six-pieds, je le respecte et je ne le domine pas. Tandis que par l'idée d'être, vous pourrez spéculer, transmathématique.
Vous pourrez aller beaucoup plus loin encore, parce que le mathématicien ne parlera pas d'idée d'être. Il restera dans des relations, il n'étendra pas l'idée d'être. Tandis que le sophiste parle d'idée d'être. L'idée du non-être, c'est encore mieux, l'idée du non-être. Parce que ça fait mieux aujourd'hui. Alors vous avez l'idée du non-être, l'idée de néant. Et vous vivez dans l'idée de néant. Alors ça aboutit à, on sait très bien, ça aboutit au suicide. Ça aboutit au suicide. Vous avez vu à Fribourg, il y a... Cette année, ça arrive, hélas. Comme Fribourg est petit, tout se sait, nous, hein. Un élève de sa dernière année, philosophie. Quand je connais le professeur, je suis persuadé que ça joue là-dessus. Il a écrit en disant « Je ne crois plus à rien, plus rien n'existe. » Et puis, il a été prendre une chambre d'hôtel pour se suicider. Il a mettre son père, sa mère, ses frères, au collège, au recteur, à tous. Et en fond, c'est la philosophie. Pourquoi ? Parce qu'on continue d'enseigner Sartre. Et on ne voit pas où ça conduit. L'idée du non-être conduit au suicide. Quand vous êtes prima du non-être, ça conduit au suicide. Il ne faut pas croire du tout. Alors, on dit, ah, c'est l'imaginaire. Oui, mais quand il n'y a que l'imaginaire, vous vivez dedans et puis ça y est. Vous ne pouvez pas en sortir, ça devient quelque chose. Alors, c'est très important de comprendre, vous voyez, que le cours ne doit pas être vécu d'une manière cérébrale, comme on pourrait dire, on passe un examen. Ça, c'est le danger des examens, parce que ça va plus vite, la cérébralisation. Prenez, tandis que la conversion de l'intelligence, c'est autre chose. Alors, vous avez l'immense avantage de ne pas passer des examens. Non ? Mais alors, c'est justement, ça doit être le point de vue de la philosophie qui devient une conversion d'intelligence. Convertir l'intelligence pour que l'intelligence sorte de ce cocon imaginaire et redécouvre ce contact avec le réel. Bien, ça doit se faire, j'allais dire, voyez, pour nous, ça se fait tous les jours par l'adoration. C'est ça qui est merveilleux dans la vie monastique. La vie monastique est vraiment le lieu où nous pouvons convertir notre intelligence. Parce que par l'adoration, quand nous adorons vraiment, nous faisons cette conversion de notre intelligence. Ah, évidemment, si on continue d'adorer en somnambule, voyez, alors à ce moment-là, il n'y a pas de conversion d'intelligence. On est somnambule, donc on reste dans l'imaginaire. On fait les gestes comme tout le monde les fait. On est dans une communauté, tout le monde se prosterne. Et vous vous prosternez ? Ah, tout le monde le fait. Alors vous prosternez. Et tout se fait comme ça. Venez, alors, on serait dans un autre milieu. Tout le monde fait cela. Le geste personnel au milieu de la communauté. L'intelligence. Dans l'intelligence, on est autonome. On est une personne autonome. C'est là le rôle de l'intelligence. L'intelligence, c'est pas ce qu'il y a de plus grand dans la vie de la personne humaine. C'est bien évident, c'est notre capacité d'aimer. Mais pour que notre capacité d'aimer soit personnelle, il faut l'intelligence. Autrement, l'amour sera pris par l'imaginaire et au fond, ce ne sera plus un véritable amour. On sera une personne parfaitement adaptée. On sera le moine parfaitement adapté. Dire qu'il ne rugit jamais, on a remonté le petit train mécanique. On l'a remonté. Alors, parce qu'on l'a remonté, il fait bien son trajet tous les jours. Et là, il a besoin d'être remonté tous les jours. C'est ça le point de vue mécanique. Mais c'est, le point de vue mécanique est artificiel. C'est pas le point de vue personnel. Et on peut arriver à faire que même la volonté soit mécanisée. C'est évident. Alors à ce moment-là, quand la volonté est mécanisée, ça devient quelque chose d'affolant. C'est le on. Alors il faut redécouvrir l'aspect personnel par le point de vue de l'intelligence, et c'est ça qu'il y a de si grand dans l'acte d'adoration. ça j'en suis moi de plus en plus convaincu. Dans notre monde d'aujourd'hui, on n'adore plus. On n'adore plus. Oui, parce que le « on » ne peut pas adorer. C'est seul l'individu et la personne qui adorent. Alors, dans l'adoration, il y a un jugement d'existence qui est celui de la foi. C'est évident ce qu'on adore comme chrétien. C'est celui de la foi. Mais celui de la foi, quand il est poussé jusqu'au bout, réclame que l'intelligence soit au service de cette foi. Alors à ce moment-là, l'acte d'adoration va nous permettre de retrouver contact avec l'autre. L'autre, c'est notre Créateur. L'autre, c'est le Christ. Quand nous adorons avec Jésus, nous découvrons le Père. Quand nous adorons sous le souffle de l'Esprit-Saint avec Marie, nous découvrons Jésus. Alors, nous découvrons l'autre. Alors, vous voyez, ça, c'est très... Alors, le cours de métaphysique que nous faisons doit être, vous voyez, doit être ce réalisme que nous essayons de redécouvrir au service de notre foi, au service de notre amour. Pour que notre amour et notre foi ne soient pas saisis par l'imaginaire, mais soient au contraire dans le réalisme divin. Et le réalisme de la charité fraternelle. Parce qu'au fond, c'est quand même... Le double réalisme, le réalisme de Dieu et le réalisme de la charité fraternelle. Alors, c'est pour ça que c'est important, l'intention, vous voyez, dans laquelle on fait un cours de métaphysique, quand on vit dans la vie monastique, hein, ça prend une autre tonalité. On peut le dire ici, je ne pourrais pas dire ça à l'université. On ne peut pas le dire, parce que ce n'est pas correct. Et on est bien obligé, là. Vous allez dire, vous entrez dans le conventionnel en disant ça. Oui, on est obligé de brûler un peu au conventionnel. Parce que c'est pour sauvegarder d'autres choses. Mais c'est très vrai qu'on ne peut pas le dire. Et qu'au fond, aujourd'hui, c'était ce que les anciens avaient très bien compris. C'est qu'au fond, le point de vue métaphysique réclame une école de sagesse. Donc un lieu où on peut vraiment parler d'une conversion de l'intelligence. Où l'intelligence doit redécouvrir ce qu'il y a de tout à fait fondamental en elle. Ça, c'est ça la conversion de l'intelligence. Revenir à son état natif. C'est-à-dire revenir au moment où elle collabore directement avec Dieu. Au moment où elle collabore directement avec Dieu en faisant son premier acte d'intelligence. Et les anciens disaient, Aristote et saint Thomas a repris, celui qui est engendré dans son premier acte de vivant coopère directement avec l'engendrant. Premier moment de la respiration chez le petit enfant. Premier moment de la respiration spirituelle en nous, dans le jugement d'existence. Et c'est très très beau de voir ça du reste. C'est que notre intelligence à ce moment-là prend son état natif. Je m'arrête. On arrête 5 minutes, hein, je crois. 5 minutes, 5 minutes de respiration biologique. Oui, sans cloche. Donc, 5 minutes de respiration biologique pour continuer la respiration spirituelle de l'intelligence.